Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici Les Grands Crimes de l'Est. En 1956, à Uruf, petit village de Meurthe-et-Moselle, on retrouvait le corps d'une jeune femme enceinte et celui de son bébé. Une affaire qui bouleversa une France encore très rurale et catholique. Dans les annales judiciaires françaises, l'affaire du curé d'Uruf, dans le Toulois, demeure un dossier criminel qui glace d'effroi ceux qui en prennent connaissance, même plusieurs décennies après. Comment un homme d'église a-t-il pu commettre un double assassinat sans que ses mains ne tremblent au dernier moment? Quelles forces obscures inspirèrent son geste? Et pourquoi sa hiérarchie, au courant de ses turpitudes antérieures, n'est-elle pas intervenue afin d'empêcher l'irréparable? Guy Desnoyers est né en 1920, à Aplemont, un petit village du Saintois en Lorraine. Il est l'aîné d'une famille paysanne qui possède 80 hectares de bonnes terres. Dans ce milieu plutôt aisé et très pieux, il était promis très jeune à la prêtrise par sa grand-mère maternelle, la personnalité dominante du clan. Petit puis grand séminaire à Beauserville et Villers-les-Nancy, le jeune Guy est décrit comme un bon gosse, mais ses pères émettent quand même des doutes sur le sérieux de sa vocation. La guerre sera une parenthèse, travail obligatoire sous la férule allemande à l'usine de Neuve-Maison, mais aussi aide aux prisonniers évadés à Harolles chez son oncle Vosgien. Vient ensuite l'ordination en 1946 et l'affectation à Blamont comme vicaire. Son supérieur, l'abbé Klein, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ce jeune homme plus prompt à jouer au basket qu'à approfondir sa foi par la lecture. C'est dans cette cité paisible du Lunévillois que Guy Desnoyers a une première liaison avec une femme. Il est alors vite muté autoritairement à Reon, dans le nord industriel de la Meurthe-et-Moselle, où on lui prête d'autres aventures, notamment avec une veuve fortunée. En 1950, cet étonnant prêtre obtient le poste de curé à Uruf, petit village de 392 âmes aux confins de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Un journaliste de l'Est républicain nous rappelle le contexte. C'était l'époque du théâtre amateur, du cinéma de village, des excursions. Le nouveau curé était en quelque sorte le meneur de jeu. Si les anciens du village trouvent le curé Desnoyers bien singulier, les jeunes en revanche le dépeignent comme accessible et surtout moderne. Mais en décembre 1953, une rumeur commence à se répandre à Uruf. Le curé aurait mis enceinte une jeune fille de 16 ans. Pour éviter le scandale, Guy Desnoyers emmène l'adolescente dans l'Ain pour accoucher et abandonner cet enfant du péché. L'évêque de Nancy est alerté. Il rend visite au curé qui lui ment, se jette à ses genoux, proteste de son innocence. L'homme d'église sort ébranlé de cette entrevue, mais renouvelle sa confiance au curé Desnoyers. Des mois passent, sans incident apparent. Toutefois, les absences du curé inquiètent ses paroissiens. Il évoquera plus tard des périodes de tourment et d'angoisse. Peut-être des besoins aussi. Une nouvelle jeune fille va tomber sous le charme de ce beau parleur. Comme la précédente, Régine fréquente la chorale et le cours de théâtre animé par le prêtre. Elle a 18 ans et elle travaille comme ouvrière à la verrerie de Vannes-le-Châtel. Ses parents accueillent volontiers le volubile curé lors de dîners le week-end. Le drame se noue courant 1956. La jeune femme tombe enceinte du curé. Ce dernier tente d'inventer une nouvelle histoire. Il trouve un jeune figurant qu'il fait passer pour le père, mais le pays continue de jaser. Et le prêtre est contraint publiquement de protester devant ses ouailles, fustigeant la calomnie. Mais début décembre, le terme de la grossesse approche. Régine est enceinte de 8 mois. Elle a rejeté l'idée d'un avortement ou d'un abandon. Elle veut garder l'enfant. Le prêtre l'entraîne dans la soirée du 3 décembre sur la petite route déserte de Pagny-la-Blanche-Côte. À deux reprises, il lui propose de lui donner l'absolution. Régine est étonnée par cette proposition. Elle refuse et elle décide de partir à pied. Guy Desnoyers la suit, deux pas derrière, un revolver à la main. Dans la nuit noire, il tend le bras vers la nuque de Régine. Il tire à trois reprises. La victime s'écroule, tuée sur le coup. Mais l'horreur ne fait que commencer. Le prêtre sort un couteau, un canif, avec lequel il va ouvrir le ventre de la jeune femme afin d'extraire son enfant. Une petite fille née viable, souligneront les experts. Une fois retiré du ventre de la maman tuée, le bébé est baptisé par le curé, puis tué à coups de couteau. Le prêtre s'acharne même sur le visage du petit être qu'il va taillader pour effacer toute éventuelle ressemblance avec lui. Enfin, il pousse la mère et l'enfant dans le fossé. Comble du cynisme, Guy Desnoyers va participer aux recherches pour retrouver Régine. Une habitante se souvient. C'est le curé lui-même qui est allé alerter le maire. Il a demandé à ce qu'on sonne le tocsin pour retrouver la jeune fille. C'est lui qui a conduit à la découverte du corps. Le prêtre finit par s'effondrer devant les enquêteurs et par avouer ses crimes. À l'époque, toute la France se passionne pour cette affaire et en même temps, elle est horrifiée par ce drame. Jugé un peu plus d'un an plus tard, Guy Desnoyers fait face à une foule massée devant le palais de justice de Nancy. Tous réclament la peine de mort. Les jurés vont lui accorder pourtant des circonstances atténuantes. Le 26 janvier 1958, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'ancien curé a réussi à sauver sa tête. Et si Guy Desnoyers a échappé à la peine de mort réclamée par l'avocat général, il le doit sans doute à son avocat, qui va faire un véritable plaidoyer contre la peine capitale. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que pour votre paix, pour que vous ne soyez pas hanté comme l'ont été des consciences plus éprouvées que les vôtres, il ne faut pas avoir recours à la peine de mort ? Lance-t-il au juré. Puis avec beaucoup de finesse et de psychologie, dans un contexte où le poids de la religion était considérable, Maître Gass évoque la condition d'ecclésiastique de son client. Si Guy Desnoyers n'avait pas été curé, aurait-il échappé à la guillotine ? Rien n'est moins sûr. Et après 22 ans de détention, Guy Desnoyers obtient en 1980 une libération conditionnelle. Parti se réfugier dans une abbaye en Bretagne, l'ancien prêtre est mort en 2010 à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui encore, le nom de cette petite commune de Toul reste associé à ce double meurtre. L'affaire a marqué à tel point que des films et des livres se sont inspirés de cette terrible histoire. C'était Les Grands Crimes de l'Est avec l'histoire du curé assassin, un texte écrit par François Moulin. Dans deux semaines, changement d'ambiance, on plonge en pleine guerre froide à Strasbourg avec l'affaire des cigares piégés. Abonnez-vous, on est sur toutes les applis de podcast pour ne rater aucun épisode. À dans 15 jours.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.